Alors, bienvenue encore une fois. Heureux que vous soyez avec nous ce matin. Je vous invite à prendre votre Bible, aller dans le livre de Jean au chapitre 4, alors qu'on est dans une série qu'on vient de commencer dimanche dernier à l'occasion de Pâques. On a commencé une série qui s'appelle « Jésus t'appelle, répondras-tu? » On est dans une série de 11 rencontres de Jésus dans l'Évangile de Jean. Et ce matin, on va regarder une extraordinaire rencontre qui est bien connue, cette rencontre avec la femme samaritaine. Un classique, une rencontre qui est renversante, qui est détaillée, qu'on retrouve dans aucun autre des évangiles et qui vraiment touche notre cœur. Et vous savez, on n'a pas besoin d'avoir rencontré Jésus comme la femme samaritaine sur le bord d'un puits pour rencontrer Jésus. Jésus nous rencontre pas juste à un puits pour une femme samaritaine, mais à plein d'endroits dans notre vie et de façon complètement différente. Alors, la semaine dernière, c'était la réponse de Pilate et cette semaine, prochaine diapo, on va regarder la réponse de la femme samaritaine et se poser une question. As-tu laissé ta cruche derrière? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, j'espère que ça va crier en vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par laisser ta cruche derrière? On va lire dans quelques instants dans le livre de Jean cette expression, cette cruche derrière. De quoi on se réfère? Mais vous savez, rencontrer Jésus se fait des fois dans des situations très variées. Et c'est pas toujours une première rencontre avec Jésus. Des fois, on a déjà eu une rencontre, mais des fois, on a besoin de le rencontrer encore une fois quand on s'est éloigné, quand on s'est refroidi. Seigneur vient nous rencontrer à différentes étapes de notre vie. Et dernièrement, dans le dernier mois, j'étais à une rencontre où on était un samedi soir en train d'avoir un bon repas, de la communion fraternelle. On était quelques adultes ensemble et on échangeait de manière très honnête sur nos expériences avec Dieu, partageant les moments difficiles, les épreuves, etc. Et il y a eu des larmes. C'était vraiment un temps extrêmement personnel et intime qu'on vivait, là, de partager des expériences, des prises de conscience qui ont vraiment amené de la croissance dans notre vie, qui ont passé par des moments de souffrance. Et quelques jours après ça, une des personnes qui était à la rencontre m'a écrit et m'a dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Mais après ce temps-là d'échange, il y a eu des larmes, d'expérience avec Dieu. Dieu m'a rencontré dans les jours qui ont suivi et a créé en moi de la guérison. C'est extrêmement touchant à lire. Et tout à coup, dans une rencontre où on était 5-6 frères et sœurs en train de parler, d'échanger à cœur ouvert l'expérience avec Dieu, cette personne-là a vu Jésus dans tout ça. Et son cœur s'est allumé et passé une nouvelle étape de guérison extrêmement significative dans sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur nous rencontre souvent pas aux endroits qu'on penserait. Cette femme va être rencontrée dans un endroit de sa routine. Elle allait juste au puits comme elle y allait à tous les jours. Dans un endroit banal de sa vie, dans la routine du quotidien, on va se le dire des fois plate. Jésus vient la rencontrer à un puits. Mais elle n'était pas là à l'heure des habitués. L'heure des habitués, c'était tôt le matin quand il fait frais. C'est là que les femmes se réunissaient normalement pour aller chercher l'eau, puiser. C'était un puits extrêmement creux, ce puits, et c'était du travail, l'amener en ville. Mais elle vient sur l'heure du midi. Et on a compris avec l'histoire et la lecture du texte que probablement elle essayait d'éviter l'heure où il y avait plus de monde, l'heure de la congestion. Elle préférait venir quand il faisait extrêmement chaud, alors où il y avait moins de monde pour passer plus incognito. Parce qu'elle voulait éviter les regards. Parce qu'à l'intérieur, elle venait puiser dans sa routine de l'eau, mais elle avait le cœur lourd. Elle avait des choses qui étaient là, elle était insatisfaite. Elle évitait les femmes du quotidien, avec qui il y avait des échanges, on se donnait des nouvelles, parce que peut-être elle ne faisait pas partie de la gang, ou peut-être elle ne voulait pas être regardée par certains à cause de sa vie. Et Jésus vient à ce moment-là, la rencontrer au moment du jour où les femmes ne vont pas là habituellement, où ce qui fait très chaud, où ce que là, ses disciples vont rentrer en ville, eux autres vont aller s'occuper du McDonald's, des frites, des burgers, puis les ramener un peu plus tard. Mais pendant ce temps-là, Jésus a une femme à rencontrer. J'aimerais qu'on lit ces quelques versets-là ensemble. Chapitre 4, on va lire les premiers 6 versets ensemble. Quand Jésus a appris que les pharisiens, on était dans le chapitre 3, en passant, on va regarder ça la semaine prochaine, c'est les baptêmes, et on va regarder la nouvelle naissance avec Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, mais avec, dans Jean, avec la rencontre de Jésus avec Nicodème la semaine prochaine, justement. Mais dans le chapitre 3, il y a cette rencontre, et Jean-Baptiste parle à la toute fin de la vie éternelle, de la colère de Dieu, et là, Jésus a quitté Jérusalem, et il a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de baptêmes, plus de disciples, et en baptisait plus que Jean. Et Jésus veut éviter toutes les controverses inutiles, les distractions. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait même pas personne, c'était ses disciples qui le faisaient. Et il quitta la Judée pour regagner la Galilée. Donc, il s'en va de Jérusalem vers le nord, vers la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Mais il y avait différents moyens de traverser la Samarie. Tu n'étais pas obligé d'aller en ligne droite, la ligne la plus rapide, et même les stricts juifs voulaient éviter de passer en ligne droite parce que pour aller jusqu'en Galilée à partir de Jérusalem, la ligne droite la plus efficace passait à travers la Samarie. Et il y en a un gros qui voulait éviter les Samaritains à tout prix, fait qu'il aimait mieux faire un petit détour en longeant la côte ou en longeant le Jourdain pour éviter de croiser ces Samaritains-là, là, ces incultes-là, là, ces gens-là qui ont changé le Pentateuque et qui l'ont ajusté à leur sauce. Ils ont fait leur propre religion. Ils ont même pas tout l'Ancien Testament. Ces Samaritains-là, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Ils en prennent juste 5 livres. Ils ont laissé les prophètes. Le reste, ils l'ont trafiqué à leur sauce. Ils ont fait leur propre haut lieu d'adoration au lieu de Jérusalem. Ces Samaritains-là, là, urk! On va faire un détour. Oh, c'est quoi un 20 km de plus pour éviter de passer à travers une ville samaritaine? C'était l'attitude que beaucoup avaient, ceux qui étaient très rigoureux à l'égard des Samaritains. Jésus, lui, passe par là. Jésus n'est pas dans ses réactions-là humaines, dans ses préjugés, dans ses colères et ses rivalités religieuses. Jésus passe à travers et continue. Et c'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, qu'on comprend être Sichem, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph. Donc, un lieu significatif, historique. Là même où se trouvait le puits de Jacob, fatigué du chemin, Jésus est assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. La sixième heure étant midi. Et peut-être vous avez dit justement apprécier la signification ici, quand vous regardez la map, vous voyez Sichem qui est au milieu. Donc, justement, entre le nord, la Galilée, vous voyez le lac, et en bas ici, Jérusalem, en bas de la carte. Donc, à mi-chemin entre les deux, c'est un lieu important. Il y avait une montagne qu'on peut voir ici, le mont Ebal et Garazim, qui était sur le côté nord et côté sud, respectivement. Un lieu important où ce que même, à l'époque, si vous avez lu l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont prononcé les malédictions et les bénédictions dans le livre de Deutéronome 27 et 29, il y avait un groupe qui était sur la montagne, l'autre sur l'autre montagne, il prononçait les bénédictions si tu obéissais à l'Éternel, et l'autre côté qui prononçait les malédictions. C'est un lieu important. Puis c'est des montagnes quand même assez hautes. On parle de 800-900 mètres. Je veux dire, on n'a pas ça à Trois-Rivières, des 800-900 mètres comme montagne. Il faut aller plus à Lac Mégantic, sur le bord des lignes américaines. On voit des montagnes de cette hauteur-là. Et c'est devenu des endroits importants parce qu'on l'a construit sur le mont Garazim, un temple qui a été détruit un peu avant Jésus-Christ, 100 ans avant Jésus-Christ, un temple samaritain qui avait été détruit. Et sur l'autre côté, on retrouvait l'ancien hôtel, probablement, justement, qui a été construit dans Josué chapitre 8 par Josué lui-même. C'était deux montagnes significatives d'histoire. C'était le haut lieu des Samaritains, donc de la religion samaritaine. Mais en même temps, c'est un lieu où, historiquement, le Père avait transmis une terre importante. Il y avait un puits là, qui aurait été creusé. Et l'histoire, évidemment, la légende raconte, parce que c'est un puits assez profond, il est maintenant sous une église. Est-ce que c'est le bon puits? Mais en tout cas, sous une église, il se trouve environ à 40 à 60 pieds sous la terre, ce puits-là. Un puits historique. Puis évidemment, quand tu es dans un endroit désertique, hein, les puits, c'est important. Tu vas d'un puits à un autre pour souvenir à tes besoins. Et c'est un puits extrêmement profond que les gens peuvent aller faire dans un lieu de pèlerinage aujourd'hui, aller visiter. Mais c'est dans ce lieu spécial, historique, de l'Ancien Testament, un lieu où, qui transcende la question de Samaritain ou Jérusalem, avant qu'il y ait un lieu d'adoration, c'est un lieu aussi des patriarches, où ce que se retrouvaient Juifs et Samaritains dans l'histoire. Un lieu propice à discuter de réconciliation plutôt que de tensions religieuses. Et Jésus, dans la routine de cette femme, vient la rencontrer dans ce lieu. La prochaine diapo vous donne justement une idée de la géographie ici, où ce que vous voyez, du coup, si on est sur le bord de la mer et on regarde vers cette ville, on voit ici tout le côté urbanisme dans la vallée, et là à droite, le mont Garazim et le mont Ebal, des lieux où il y a du tourisme aujourd'hui, des lieux où il y a des endroits historiques, archéologiques à aller visiter à ce jour. Prochaine diapo. Ce matin, Jésus appelle la Samaritaine. Jésus appelle à laisser la religion insatisfaisante, les relations émotionnelles insatisfaisantes pour entrer avec lui dans une relation afin de trouver la vraie vie qu'elle n'a jamais trouvée dans l'un ou l'autre de ses quêtes de sa vie. Un de mes amis, Bernard Guy, a prêché un sermon pendant le temps de la COVID, quand j'étais au Camp Patmos, qui disait « Jésus, ici, aide cette femme à se déconfiner pendant la période de confinement. Se déconfiner de sa situation d'insatisfaction. » Alors que Jésus devait passer à travers cet endroit-là, il n'était pas obligé. Jésus l'a fait pour faire la volonté de Dieu dans ce lieu-là. Un endroit précis de rencontre pour amener cette femme à la réconciliation. Et ce matin, on va regarder 6 observations à travers ce texte-là. On ne va pas lire le chapitre complet, une partie seulement, puisque le tout ne concerne pas la femme samaritaine. Jésus a aussi une rencontre avec ses disciples. Mais on ne touchera pas cette partie-là de ce que Jésus veut enseigner à ses disciples à ce moment-là. C'est un autre sujet. Les prochaines diapos, on va commencer justement à regarder ces différents points d'observation dans notre texte. Premièrement, une soif masquée par la routine. Jésus vient la rencontrer dans sa routine et cette femme faisait juste qu'est-ce qu'elle faisait habituellement. Mais à l'intérieur de sa routine, elle vivait de la honte, elle vivait de l'isolement, elle était fatiguée et elle évitait certaines personnes, elle évitait certains lieux, elle évitait certaines situations qui faisaient juste accentuer. Mais elle vivait aussi, même si elle était en relation avec quelqu'un, elle vivait de la solitude intérieure. Elle vivait de l'insatisfaction relationnelle et religieuse dans son cœur. C'était comme quelqu'un, justement, qui fait toujours le même trajet à tous les jours, routinier ordinaire, avec rien de fait saillant, mais que tout à coup, Jésus se présente dans cette habitude si simple et ordinaire de la vie. Vous savez, pour la plupart du temps, là, le Seigneur ne nous rencontre pas dans des hauts moments, hein? Le Seigneur vient nous rencontrer dans des choses, des endroits ordinaires, dans des rencontres ordinaires, dans des routines ordinaires de la vie. Il ne se rencontre pas sur commande. Il vient quand on ne s'y attend pas souvent, nous rencontrer, guérir, montrer des choses, se révéler à nous dans notre routine. Souvent, on regarde les patriarches, puis on est fasciné par les patriarches. « Ah, il y a eu telle rencontre avec un ange! » Puis là, on oublie qu'entre ce chapitre-là puis l'autre chapitre, il se passe 10 ans. De routine ordinaire de patriarche. De faire les repas, de faire du ménage, d'avoir des chicanes de couple, de faire la discipline d'enfant. Avant que 10 ans plus tard, il y a une autre rencontre, une manifestation. Puis là, nous autres, on regarde les manifestations, on dit, hey, les patriarches, leur vie est extraordinaire. Mais on oublie tout ce qui se passe entre les chapitres. Des 10 ans, des 15 ans de routine. À continuer à juste aimer Dieu, transmettre la foi, prendre soin les uns les autres, à faire la routine du quotidien dans lequel on peut se perdre facilement en le prenant pour acquis, en le prenant comme ordinaire. Mais n'est-ce pas ce qu'on est appelé à vivre aussi dans la majorité de notre vie? De la routine et de rencontrer Dieu. De vivre notre vie chrétienne dans la joie, même dans l'ordinaire de la vie. Quand il n'y a pas grands éclats, quand il n'y a pas grandes choses fantastiques à raconter. Et pourtant, c'est si facile de cracher, de regarder avec mépris notre routine de tous les jours, dans laquelle le Seigneur veut nous rencontrer. C'est intéressant, c'est pas elle qui vient à la rencontre de Jésus, c'est qui? C'est Jésus qui va à sa rencontre. Elle n'était même pas en train de chercher Jésus, mais Jésus vient ici pour la rencontrer, elle. Jésus prend l'initiative et Jésus passe par-dessus les préjugés. Regardez avec moi qu'est-ce qu'on lit, les versets 7 et suivants. « Arrive une femme de Samarie, pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Puis elle, elle regarde, « Il est où ton baquet? Tu peux le faire toi-même? Peux-tu t'en servir, moi, là? Donne-moi à boire. » C'est un ordre, ça. Hein? Je pense pas qu'il y ait une femme ici qui aurait trippé ici sur cette première abordage de Jésus. « Donne-moi à boire. » Et ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? » Et là, ici, un peu en parenthèse, une note, les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de communion, de commun avec les Samaritains. Ce que Jésus fait, c'est anormal. Alors, c'est sûr que ça attire l'attention de la femme. Mais Jésus, dans le fond, est intentionnel ici. Il veut un peu choquer. Il veut un peu montrer qu'il passe par-dessus les coutumes. Jésus n'est pas pris dans le traditionnel. Jésus n'est pas pris dans les obligations sociales. S'il juge que ce n'est pas nécessaire. Et au contraire, même, il veut piquer sa curiosité par cette manière de l'aborder, alors qu'un homme juif, normalement, ne ferait pas une chose de même. Et il n'a pas traîné son baquet pour rien. Il ne voulait pas. Il voulait ici rencontrer quelqu'un avec ce problème d'avoir besoin d'eau pour entrer en conversation et parler à son cœur, à ses besoins à elle. Tu sais, un peu plus loin, les Juifs étaient tellement à mépriser les Samaritains que si on regarde au chapitre 8, verset 48, on lit qu'ils ont insulté Jésus, ils l'ont traité d'être un Samaritain puis un possédé du diable. C'est la même ligne, tu sais. C'était pas flatteur, là, si le mépris. Et si je vous donnais encore une liste de 5-6 autres occasions où ce qu'on parle des Samaritains, Jésus est en train de faire un point ici, comme il fait à d'autres endroits. Et là, tout à coup, on comprend mieux aussi quand il parle du bon Samaritain. Bon Samaritain. Pas supposé être dans la même phrase, ça, bon puis Samaritain. Crotté de Samaritain, pas bon de Samaritain, inculte de Samaritain, mais bon Samaritain. Jésus, t'es pas né dans le bon pays, on dirait que t'as pas compris ici, là. Hein? Jésus, qui prend soin des cœurs, n'est pas dans ces affaires-là. Il est pas là-dedans. Et lui, il est intéressé au cœur de cette femme qui est insatiable, qui se perd. Et il veut la rencontrer et lui montrer qu'il est intentionnel à la rencontrer et passer par-dessus les obstacles. Même les femmes, hommes parlaient à une femme. Il y a des rabbins qui étaient... C'est triste d'entendre. Des fois, on lit des choses sur les rabbins, ce qu'ils disaient à l'époque face aux femmes. Il y avait de la misogynie aussi souvent. Beaucoup de misogynie et des commentaires ont soulevé comment des rabbins, des fois, avaient des propos très discrétieux envers les femmes. C'est l'une des prières. C'est « Merci Seigneur que je ne suis pas né une femme. » OK. Si un homme parle à une femme, là, il y a des propos pour dire comment « C'était pas une bonne affaire de parler avec une femme trop longtemps. Ça va t'amener des problèmes. » Bien, peut-être que oui, peut-être que non, là, tout comme le contraire aussi, là. Mais il y avait des propos qui rendaient aussi même la tension homme-femme, et là, après, en plus, une culture de différence, une religion différente, qui rendrait peu propice et favorable ce genre de rencontre-là. Et Jésus, c'est pas pour rien aussi qu'il va le faire pendant que ses disciples sont pas là. Parce qu'évidemment, ses disciples auraient été outragés de la situation. On le voit en revenant, comment il va juste partir. Puis c'est comme, ben, Jésus parlait avec une femme samaritaine. Là, il est allé chercher sa gang. Hey, gang, on s'en va là, avant que les Samaritains viennent. C'est comme, on veut éviter ce monde-là. Mais Jésus attend qu'ils soient en ville pour parler avec cette femme-là, pour pas que cette femme-là, ses disciples, soient un obstacle à ce que Jésus rencontre cette femme-là. Il s'en occupe de ses disciples. Allez vous occuper de la bouffe, les gars, c'est correct. Moi, je vais m'occuper d'autres choses pour le royaume de Dieu. Mais Dieu va utiliser aussi ça pour faire une leçon par Jésus pour ses disciples. Jésus répond. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui répondit au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Encore une fois, la femme le regarde avec des yeux un peu perplexes. Mais c'est qui celui-là? Il est bien weird. C'est vraiment ça qu'elle pense, là. La femme dit à Jésus, « Tu n'as même pas un seau. Puis tu me dis que tu me donnerais de l'eau. Et le puits est profond. » Effectivement, le puits, traditionnellement, on comprend qu'il est de 46 à 60 pieds de profond, là. Il se trouve sous une église, profondément, là, aujourd'hui. « D'où tu tiens donc cette eau vive? » Bonne question. « Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob? » Parce qu'évidemment, on est dans un contexte ici d'un patriarche, le puits de Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Tu vas y revenir demain matin, prendre une autre cruche. Tu vas y revenir dans 2 jours, prendre une autre cruche. Puis tu vas revenir dans 4 jours, prendre une autre cruche. Puis ça n'arrêtera jamais. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra une source jaillissante dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser. » On comprend ici que l'idée de la soif, c'est le terme qui est utilisé ici pour parler de cette soif humaine, cette quête d'être satisfait, qui est utilisée comme image ici. Pour évidemment faire réfléchir cette femme, notre besoin, notre quête d'identité, notre désir insatiable pour des choses, pour trouver la joie, etc. Et on peut passer toute notre vie à chercher, à combler cette soif, autre que la soif physique, mais la soif de notre âme, et ne jamais la trouver. Et Jésus lui donne ici des paroles à réfléchir, qu'on comprend ici être une image, qui vont prendre de plus en plus de sens à mesure que Jésus se présente, à mesure que Jésus souligne des choses dans sa vie. Donc, on va revenir à ces quelques paroles qui sont là ici. Mais cette femme, un peu comme une femme qui irait boire de l'eau de la mer, doit y retourner continuellement parce que jamais elle ne trouve la soif, et tranquillement, cette soif à boire de l'eau de mer va la tuer. Et la laisser insatisfaite totalement jusqu'à la mort. Chacune des relations qu'elle avait vécues lui avait amené de l'insatisfaction. Et là, Jésus va tomber justement là-dedans. Le prochain point, justement, des relations qui ne comblent pas. Regardez à partir du verset 15, on va suivre, la femme dit cela et Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Déjà, on dit, Jésus tourne la conversation un peu abrupte parce qu'il a fait quelque chose. Elle dit, hey, « Si tu m'offres ça, moi, je veux tout au complet. » Elle dit, « Va chercher ton mari. » C'est intéressant. Pourquoi Jésus fait ça? Évidemment, les versets qui suivent nous le disent. La femme répondit, « Ah ben, j'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme que tu es avec maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et là, on pouvait entendre une mouche voler, un gros malaise. Ouf! Il vient de me dire quelque chose que personne ne savait ou qu'il ne pouvait pas savoir. Il vient de parler de ma vie morale. Il vient de souligner peut-être pourquoi je suis là sur l'heure du midi quand il fait chaud, plutôt que le matin avec les autres femmes parce que j'ai le regard des femmes du quartier qui me regardent et qui ont peur que je parte avec leur mari, peut-être, je ne sais pas. Il y a un malaise ici, là. Là, tout à coup, la conversation banale de l'eau puis l'eau fraîche devient, oh, ma vie morale, mes relations instables. Et que sa soif avait été cherchée chez les hommes pour combler sa raison d'être. Et elle n'avait jamais été satisfaite. Et même avec qui elle était présentement, ce n'était pas son mari. Après 5 maris, elle a une vie occupée. C'est déjà compliqué d'avoir un mari. Quand on a eu 5, c'est pas facile. Hein? Ça laisse des séquelles, tout ça. C'était une femme qu'on peut comprendre ici qui devait être très blessée dans la vie. Qui avait dû changer de relation plusieurs fois, peut-être vécu de l'abus de différentes formes, de la déception, de la trahison. Peut-être elle-même avait peut-être trahi, peut-être elle avait été élevée aussi d'un foyer qui n'était pas aidant à tout ça, déçue des hommes, déçue de l'engagement, et qui finalement, des années plus tard, était elle-même dans ce même scénario-là, insatisfaite de la vie. Et Jésus ne lui rentre pas dedans. Il fait juste lui signaler, effectivement, puis j'en sais sur toi plus que tu penses. Et Jésus ne lui rentre pas dedans. Il fait juste prendre un miroir, puis lui dire, tu dis la vérité, puis laisse-moi t'en dire un petit peu plus que je sais sur toi. Il veut créer un certain pincement, un certain inconfortable, pour souligner sa soif. Et qu'est-ce que Jésus lui apporte? Viens répondre à ses besoins-là. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Parce que là, tu dis une information qu'un homme normal ne saurait pas. « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez que Jérusalem se trouve le lieu où ce qu'il faut adorer. » Alors, quelqu'un parle d'un sujet inconfortable, tu n'as pas le goût d'en parler. Qu'est-ce que tu fais? On fuit! On change de sujet. Peut-être même on va prendre le miroir, leur virer de bord, puis essayer de t'envoyer une balle dans ton camp pour te rendre mal à l'aise. Mais on évite. Et là, on voit tout de suite par sa question, elle renvoie la balle, puis là, tout à coup, elle change de sujet, puis elle se va vers un sujet vraiment intéressant, la religion. Hein? La religion. Mais là, vous autres, tu sais, en passant, là, vous autres, vous dites que c'est vous autres qui avez le bon lieu d'adoration, mais tu sais, nous autres, c'est ici qu'on adore, là, puis même, on avait un super temple là, en haut de Garazim, là, il y a 150 ans, il y en a un qui est venu nous démolir, là, mais on se rend compte encore là, là, tu sais, puis là, c'est quoi le bon lieu? Et là, Jésus, il est prêt avec une question épineuse qui peut prendre quelques heures de discussion. Et le besoin d'aller à une synagogue pas loin pour aller ouvrir des parchemins des Écritures, puis peut-être donner quelques clarifications. Mais elle a ses écrits samaritaines, puis elle est prise avec ce pentateuque samaritain qui a des variantes ajustées à leur sauce à eux autres. Qu'est-ce que Jésus va faire quand tout à coup la conversation malaisante s'en va vers la religion à devenir peut-être une distraction de prendre soin de son cœur? Jésus, dans sa sagesse, nous montre quoi faire et comment éviter cela. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on passe à une prochaine étape maintenant ici, où ce qu'on voit le prochain point, des relations qui ne comblent pas. Et là, maintenant aussi, l'autre thème qui est abordé ici, une religion qui ne satisfait pas. OK? Regardez bien comment il va répondre. Jésus lui dit au verset 21, « Crois-moi, femme. » Et là, ici, de dire « femme », c'est pas péjoratif ici, OK? Peut-être nous autres, on dit « hey, femme », là, on dit hey, « tu ne parles pas de la bonne manière, là. » C'est pas la bonne manière de commencer une conversation, mais la manière qu'il l'aborde, culturellement, c'était une manière normale de le faire. C'était pas méprisant, OK? « L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Intéressant, Jésus quand même va prendre une certaine position ici, là. Vous avez de l'ignorance dans votre adoration, nous autres on adore ce qu'on connaît. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, puis là Jésus c'est là qu'il va amener ça plus loin pour éviter la discussion actuelle. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs, par la présence de Jésus ici, là, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit, en vérité. Dieu, il n'est pas pogné avec un lieu de culte. Il n'est pas pogné avec un endroit. Hein, dans l'Ancien Testament, on faisait ça aussi face à des dieux. On disait, ah, lui, c'est un dieu de la vallée. Fait qu'on va aller faire une guerre plutôt dans tel endroit. Ah, lui, c'est un dieu des montagnes. Fait qu'on va éviter, on fait ça dans une vallée pour gagner le combat. On isolait les dieux dans des choses. Il dit, moi, je suis pas comme ça, là. J'en reviens de toutes ces conceptions-là païennes. Je suis pas obligé d'être à un lieu, même si eux autres, ils connaissent mieux la vérité, les Juifs, que vous autres. Ils changent complètement le discours pour dire, éventuellement, de toute façon, c'est pas le lieu qui compte. Mais c'est qui tu adores et comment tu vas l'adorer. Qui tu adores et comment tu vas l'adorer. Et là, Jésus va se présenter immédiatement après. Il renverse la situation, il prend la distraction, il clarifie quelque chose, mais il s'en va tout de suite à l'essentiel plutôt que de perdre son temps dans le secondaire. La bâtisse, les colonnes, la montagne, l'adresse, le site web, c'est pas ça qui compte. Est-ce que tu as compris qui il faut adorer? Puis est-ce que tu le fais de la bonne façon, avec un cœur entier? Et c'est là qu'on a cette expression-là, justement, qu'on va retrouver et qui est mentionnée « en esprit, en vérité ». La français courant l'a traduit d'une façon, je pense, intéressante et assez juste, le paraphrase plus justement, mais « étant guidé par l'esprit, par son esprit et selon sa vérité ». Et j'aime la traduction ici, qui n'est pas une traduction conforme au texte, qui est plus simpliste, mais dont l'interprétation semble être ce que Jésus veut dire ici. En étant guidé par son esprit, ou avec, ou par l'Esprit Saint, et selon la vérité ou sa vérité. Avec la vérité de qui Dieu est, et de qui est devant lui, et comment l'adorer. Que l'adoration, c'est pas juste te rendre à un endroit, c'est bien plus que ça. C'est pas juste de faire des gestes. Ça se passe à l'intérieur, par l'Esprit Saint, dans ton âme intérieure, dans ton esprit. Pas juste dans le rituel, dans tes comportements, dans le fait que tu es venu ici à l'église ce matin. Ah, j'ai fait mon geste d'adoration, je suis allé à l'église. Et pourtant, certains viennent à l'église et n'ont pas la vie éternelle. Et juste de se rendre dans un lieu de célébration de Jésus, ou que l'Église ne nous sauve pas en tant que telle si notre soif n'a pas été étanchée par l'eau de la parole de Dieu, par l'eau insatiable que Jésus peut offrir, par Jésus lui-même. Et c'est ce qu'on va attendre la semaine prochaine. On va avoir des témoignages de gens qui vont raconter leur histoire avec Jésus. Soyez là, ne manquez pas ça et invitez quelqu'un avec vous. Arrivez un peu plus tôt s'il y a plus de monde dans ce temps-là. Et là, d'entendre quatre personnes qui vont nous raconter leur rencontre avec Jésus et comment Jésus a étanché leur soif. Différents âges, différentes personnes, différentes histoires, et pourtant un seul sauveur. Une seule rencontre déterminante, celle de rencontrer Jésus et de boire de son eau vive qui donne la vie éternelle par la foi. C'est ce qu'ils ont tous en commun. Et donc, Jésus ici prend position devant la religion pour dire « c'est pas ça qui compte ». La religion devient des fois un écran, un refuge. Pratique sans transformation. Tradition sans relation avec Dieu. Parler de Dieu, mais sans vraiment parler avec Dieu et le connaître. Et Jésus est en train de dire ici que ça, ça donne rien. On peut parler de Dieu sans vraiment le connaître. Une triste situation que cultive facilement la religiosité. C'est comme si quelqu'un qui parlait continuellement de nourriture lit des livres de cuisine, mais ne mange jamais. C'est plate pas mal. C'est peu crédible. Goûte pas à sa propre nourriture. On peut parler de Dieu, débattre, faire des pratiques liées à la religion et tout ça sans jamais vraiment être nourri à l'intérieur de la personne de Dieu, de Jésus-Christ, et de vivre une satisfaction entière, sans jamais être rempli. Ni les relations, ni la religion. Alors, on satisfait cette femme et on peut l'amener. Et elle avait donc besoin de l'eau vive. Prochain point, l'eau vive, une satisfaction réelle. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Donc, ce n'est pas de l'eau que tu gagneras, ce n'est pas de l'eau que tu puiseras, ce n'est pas de l'eau que quelqu'un d'autre te donnera, c'est l'eau que je te donnerai. Elle vient de Jésus. Parce que Jésus n'était pas venu avec un bucket pour puiser de l'eau, parce que Jésus est l'eau de vie. Vous comprenez? Il n'avait pas besoin de cruche, lui. Parce que lui-même est l'eau qui était nécessaire. Et c'est toute l'idée ici pour qu'elle rentre en lien avec lui. Jésus est cette eau vive. Cette eau qui apporte la satisfaction. Vous savez, il y a une grosse mode là, des hydro flasks, puis des thermo flasks, puis lequel flasque tu as qui est meilleur, puis quelle compagnie, puis comment tu payes plus cher l'un que l'autre. Parce qu'on tente avec notre bouteille, hein, d'avoir de l'eau qu'on peut garder avec nous, hey, j'espère avoir 24 heures ou 36 heures de temps, elle est encore fraîche. Parce que personne ne trippe sur boire de l'eau en général, température pièce, ou quand tu fais du sport, qui est encore température extérieure, quand il fait chaud déjà. Tu veux avoir une eau fraîche. Tu veux une eau qui n'a pas été là pendant des semaines, qui est rendue corrompue, qui est rendue sans vie, qui est rendue peut-être avec des bactéries dedans. Tu veux une eau qui est rafraîchissante, fraîche, et aussi qui est santé. Et la fraîcheur empêche, évidemment, que plein de bactéries prolifèrent dedans, n'est-ce pas? Fait qu'on essaie d'avoir une bouteille qui garde l'eau fraîche. On cherche ça. On est prêt à payer cher pour des bouteilles à 50$ pour avoir notre eau fraîche. Hein? Je ne vous ferai pas lever vos mains, là, mais vous êtes beaucoup à en avoir acheté des bouteilles chères. Hein? C'est la grosse mode. Mais Jésus ici nous dit que c'est lui l'eau fraîche. Tu ne pourras pas la gagner, l'acheter, la conserver et la garder avec toi par des efforts humains. C'est moi qui l'ai, puis c'est moi qui vais te la donner. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire pour l'acquérir, contrairement à nos moyens qu'on se donne pour acquérir de l'eau fraîche et la garder fraîche. Tu peux juste l'accepter humblement que je ne suis pas capable d'avoir cette eau-là. Je ne peux pas la mériter. Je ne peux pas la gagner. Je ne ferai pas une religion qui va arriver à la hauteur d'avoir ça. Et j'ai besoin d'accepter humblement que seul Jésus peut donner cette eau fraîche qui donne vie et qui maintient la vie en moi. Aucun autre moyen. Jésus est cette eau fraîche. Ce n'est plus une recherche extérieure temporaire, c'est une transformation intérieure et permanente qu'elle a besoin de vivre. Mais cette source n'est pas une chose, c'est une personne. Ce n'est pas un endroit, c'est Jésus lui-même, le Messie. Et là, Jésus va se présenter à elle. Regardez bien les versets qui vont suivre cette rencontre marquante qu'elle va vivre avec Jésus. Regardez les versets 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir. » Un Messie. Il y a une attente là, qu'elle communique. « Celui qu'on appelle Christ, c'est la traduction grecque pour Messie. » Lorsqu'il viendra, il nous montrera toutes choses. Fait que là, elle associe les paroles de Jésus, la question de la religion qui va être étanchée par Jésus et cette chose-là à venir qui va venir régler. Puis elle dit, ça a-tu rapport avec ce Messie-là qu'on a une attente? Parce que même les Samaritains avaient une attente. Mais là, elle parle d'un Messie, elle parle même pas de le Messie, un Messie. Et Jésus va lui révéler ce qu'il n'a pas révélé en public aux Juifs jusqu'à présent. Il va parler à cette femme-là au milieu de la Cisjordanie. Au milieu de ces gens incultes, au milieu de ces gens que les Juifs méprisent, au milieu de cette femme qui vit de l'immoralité, qui est insatisfaite, c'est à elle que Jésus va se présenter et donner son identité pour la première fois. Ah, c'est pas rien, là. C'est à une femme. Il dit, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Je suis le Christ, le oint de Dieu, celui que t'attends, celui que Dieu envoie, tu le vois drette devant toi, celui qui a dit l'avenir sur ta vie, que des choses du passé que j'aurais pas été supposé de savoir, c'est pour ça. Celui qui t'offre de l'eau, qui te va donner la vie éternelle, c'est parce que tu as le Messie devant toi. Jésus se présente à cette femme. Il montre que c'est une personne. La personne de Dieu, le Fils de Dieu, qui peut la satisfaire et rien de ses expériences qu'elle a fait, la conquête et qu'elle est sortie vide, vide, vide et vide. Et ça, c'est l'expérience. Et cette eau-là, elle est disponible. C'est-à-dire, elle est là devant toi. Et cette femme-là, écoutez, c'est pas rien. Jésus décide que c'est cette femme-là dans le un à un, que pour la première fois, il va dévoiler son identité par sa propre bouche. Pas dans un débat à Jérusalem, il ne l'a pas dit aux pharisiens, ça. Ses disciples le savaient. Mais c'est à cette femme-là, qui est méprisée par les femmes autour de elle, qui est regardée avec dédain, qui doit éviter les foules parce qu'elle est tannée de se faire regarder. C'est à cette femme-là que Jésus dévoile sa personne. Ça nous dit beaucoup de la bonté, de la grâce de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et comment Dieu regarde les gens, pas de la façon que nous, on les regarde. Il voit le cœur, il voit la souffrance, la peine, l'isolement. Il voit ce que lui peut lui apporter plutôt que « Est-ce qu'elle mérite mon attention, cette personne-là? Est-ce qu'elle a fait des efforts pour me chercher? » Il n'y a rien de tout ça. Il voit le cœur. Et il s'approche d'une façon unique pour prendre soin de ce cœur-là. Et il n'approuve pas sa vie, mais il la juge pas puis il la met pas peinturée d'un coin non plus. Et il lui dit ce qu'en est la vérité pour qu'il y ait un inconfort. Mais il lui dit, c'est pas ça qui va faire l'élément déterminant de ta vie. C'est est-ce que tu as bu de la bonne eau. L'eau qui va te donner de la vie éternelle et que tu vas pas juste revenir ici à tous les matins, mais que tu as bu l'eau qui va donner un sens à toute ta vie, qui va arrêter de t'amener à chercher dans plein de choses ta satisfaction et que tu es encore comme une cruche vide, avec rien dedans, même si tu la remplis chaque jour. Regardez les versets suivants. Qu'est-ce qui se passe? Une personne, donc, qu'elle rencontre, le Christ. Et là, il y a un suspense aussi. Comment elle va réagir? Sur quoi, tout à coup, les fameux disciples qu'on avait envoyés, qu'on s'était débarrassés, ils reviennent? Jésus, ils avaient occupé pendant ce temps-là. Allez chercher du McDo, gang, puis vous reviendrez. Là. Puis moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de la volonté de mon Père. Il va avoir une leçon à leur donner. Je ne vais pas tomber dedans. Vous pourrez le lire vous-même. Parce que là, tout à coup, si vous appréciez ce que Jésus a fait avec la femme, vous allez comprendre maintenant le sens de pas de, juste de l'eau de vie, de la nourriture de Jésus qui n'est pas pantoute la nourriture des disciples. Et la leçon que Jésus veut faire avec ses disciples sur la nourriture. Et là, ils s'étonnèrent que Jésus parlait avec une femme, et en plus une femme samaritaine. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu? » ou « Pourquoi lui parles-tu? » Personne n'osait lui dire. Et là, on apprend ceci. La femme, alors, abandonne sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? » Ne serait-il pas le Messie? Et là, on arrive à la dernier point. La réponse qui transforme. Elle a cru ce que Jésus lui a dit. C'est tout ce qu'elle a fait. On ne nous dit même pas la femme crue. On sait qu'elle a cru parce qu'après avoir rencontré Jésus, tout ce qu'elle fait, c'est que tout ce qui était important à ce moment-là, le pourquoi elle était là est devenu secondaire. La cruche a pris le bord, l'eau de la journée a pris le bord, les activités de la routine ont pris le bord, je viens de rencontrer le Messie et je ne peux pas le garder pour moi. Je dois aller en parler. Il n'y a personne qui va m'empêcher. Elle est partie à la course quand les disciples sont arrivés parce qu'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas garder ça pour elle-même. Amen. Quand tu rencontres Jésus, tu ne veux pas le garder pour toi. Quand tu as bu de l'eau fraîche, tu ne peux pas égoïstement garder ta source et pas la partager avec personne. Sinon, tu n'as pas compris. Et elle a rencontré Jésus. Et la première chose qui témoigne que la foi est entrée chez elle, c'est qu'elle allait le partager immédiatement. Il n'y a aucune retenue. Il n'y a pas de « Hey, les gens, ils vont-tu me croire? Je vais-tu avoir l'air un peu bizarre? » Là, si je raconte cette histoire-là, peut-être la madame qui ne m'a pas regardé depuis 2 jours, elle ne voudrait pas me regarder. Ça y a même pas passé par la tête. Elle a rencontré le Messie, puis elle s'en va le partager, point barre. C'est tout. Vous savez, c'est juste ça, évangéliser. Hein? C'est un débordement d'avoir rencontré Jésus, d'une nouvelle qui m'a transformé et que je ne peux pas garder pour moi. Et je le partage avec l'autre sans trop me soucier du détail autour. C'est ça, évangéliser. Apporter la bonne nouvelle. C'est ce qu'elle a fait. C'est un débordement de sa personne. C'est sa réaction instinctive. Et là, on lit justement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ne serait-ce pas le Messie, ils sortirent de la ville et ils allèrent vers lui. Alors là, les disciples, ça allait vraiment pas bien. De une Samaritaine, ils se ramassent avec une foule de Samaritains. C'était pas dans les plans du jour des disciples. C'était pas une bonne journée pour eux autres. Ça tourne de pire en pire avec Jésus. Il nous passe ici. En plus, il demande quelque chose, puis il parle avec une femme. Puis il est allé chercher sa gang pour venir. Et là, eux autres sont complètement là, à côté de leur pompe. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils n'ont pas pantoute le même cœur de Jésus. Ils ne sont pas à la même endroit, on comprend. On va être gracieux avec eux. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit-Saint. Et Jésus est en train de les former. Et ce qu'il fait, c'est choquant culturellement. La manière dont il apporte la vérité. Mais c'est la vérité. Il prend soin des cœurs et il dépasse et transcende toutes ces fausses conceptions, ces jugements-là qui empêchent d'aimer, de prendre soin de l'autre et de le regarder comme Dieu regarde l'autre. De passer par-dessus les apparences pour voir le cœur. Et c'est ce que Jésus fait. Et c'est intéressant, hein? Venez et voyez. On a l'impression d'entendre Jésus dans Matthieu 11. Venez, hein? Vous tous qui êtes fatigués, hein? Les mêmes paroles qui est là ici. Puis c'est intéressant, la femme samaritaine, on dit que Jésus était fatigué au verset 6. Il va parler du même mot aussi au verset 38. Ça nous ramène vraiment à cette idée-là. Et finalement, regardez un peu plus loin. Première réaction. Donc, cette femme-là qui était rejetée, qui était rejet, qui était regardée immorale, devient témoin de Jésus-Christ. Visiblement, une transformation est claire. Et cette femme-là qui était vide est tout à coup remplie de Jésus et elle témoigne de sa foi, ne pouvant pas faire autre chose. Et regardez maintenant la réaction de la foule, tout de suite après, verset 39. C'est avec ça qu'on va terminer notre lecture ce matin. Verset 39, j'ai changé de page. Beaucoup de Samaritains, parce qu'entre le verset 31 et 37, c'est la discussion avec les disciples, OK? Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains prièrent de demeurer parmi eux. Ça va vraiment pas bien pour les disciples. Eux autres, là, ils sont comme « Aïe, c'est pas possible comme journée. On va rester ici, on va camper. Il va aller dans leur maison. » Hein, oui, c'est Jésus. Et il demeura deux jours, deux longs jours pour les disciples. Mais regardez pourquoi. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Elle a eu une rencontre, mais sa rencontre puis raconter ne pouvait pas rencontrer qu'eux rencontrent Jésus. Ça ne pouvait pas remplacer juste ça. Il y avait besoin eux autres aussi, personnellement. Et Jésus les rencontre, il reste avec eux deux jours, il va en faire des disciples. Et il disait à la femme, « Ce n'est pas seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Soulignez ça ici. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il n'a pas encore fait de sacrifice à la croix, là. Ils n'ont pas vu tout le reste d'histoire, là. Mais c'est le Messie. Il connaît des choses qu'on ne peut pas savoir. Ils l'ont rencontré, ils l'ont entendu. Puis il dit, c'est pas à cause de ce que tu dis. Initialement, c'était ça, là. Mais on l'a rencontré, nous autres ici, mais on l'a cru nous-mêmes. Et là, le mot « croire » va apparaître trois fois parce qu'évidemment, on est dans Jean. Et Jean, pourquoi il nous a écrit toutes ces histoires? Afin que vous... Chaque histoire veut nous amener à la fin à croire en Jésus. À prendre Jésus au mot sur qui il est, son identité et ce qu'il veut faire dans ma vie. Mais pas croire n'importe quoi. Deuxième chose que j'en dis, c'est de croire qu'il est fils de Dieu. Le Messie, le Christ, c'est son identité. Et que si tu crois qu'il est le fils de Dieu, tu vas avoir... la vie éternelle. Chapitre 20, verset 31. La vie éternelle. Donc, cette eau, c'est une eau qui vive, qui va aller dans la vie éternelle, nous dit. Donc, Jean ici, là, son but dans le chapitre 20, on le voit l'appliquer tout au long de son histoire. Je veux que tu crois après avoir lu ça. Je veux que tu comprennes qui est Jésus. Et je veux comprendre que si tu crois, puis tu crois qu'il est la bonne affaire, tu as la vie éternelle. C'est ça le message. Et cette vie éternelle-là fait que tu n'es plus jamais pareil. Tu as une nouvelle identité. Tu as un nouveau passeport. Tu as une nouvelle citoyenneté, tu as un nouveau code de vie, tu as un nouveau Seigneur, et ça, ça change toute ta vie. Tu ne vis plus de la même façon si tu as rencontré Jésus. Et je suis certain que cette femme-là n'a plus jamais vécu de la même façon et que Jésus l'a accompagnée dans les défis qu'elle devait relever. J'aimerais terminer avec cette dernière diapo pour mettre en pratique la parole de Dieu ce matin. Ta rencontre maintenant avec Jésus. C'est bien beau qu'elle ait eu sa rencontre, mais quelle est ta rencontre ce matin avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut te dire ce matin à toi personnellement? Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit, je n'ai pas le monopole du Saint-Esprit. Je ne peux pas te dire ce que Jésus peut te dire. Mais peut-être que Jésus est en train de te dire quelque chose présentement dans ton cœur, puis tu le sais. Il y a quelque chose qui te rappelle sur ton passé, sur des quêtes. Il y a quelque chose qui se rappelle sur peut-être un péché que tu es retourné dedans cette semaine, puis tu dis, voyons, je ne faisais pas ça avant. J'avais abandonné tout ça. Pourquoi je suis retourné là à mon ancienne cruche vide? Elle a laissé sa cruche en arrière. Elle a laissé sa cruche en arrière. Elle avait de la religion, des relations, une routine, mais elle est encore dans la soif. Prochain point. Et Jésus lui montre ici qu'il va lui donner une meilleure religion? Non. Jésus va lui donner un meilleur conjoint? Non. Tout ça était voué à l'échec. C'est pas ça qui va amener sa joie. Jésus dit, c'est moi qui t'as besoin. L'homme qui va combler tous tes besoins, qui n'est pas juste un homme, qui est Dieu, homme, incarné parmi nous. Le Fils de Dieu qui marche parmi les hommes. Qu'est-ce que tu continues à chercher encore aujourd'hui et qui ne t'a jamais satisfait? Y a-t-il quelque chose que tu es encore en train de pourchasser et qui te vole ton bonheur, vole ton énergie? L'approbation, la réussite, l'argent? Comment les autres te voient? Une pension à 55 au lieu d'être tard comme les autres? La beauté, la forme physique, la santé, vouloir vivre le plus longtemps possible puis gratter tous les fonds de tiroir pour avoir la nourriture santé qu'il te faut en pensant que ça va te satisfaire, ton anxiété de la vie et la mort? Qu'est-ce que tu cherches encore qui sape ta joie, qui t'enlève le bonheur? Peut-être tu as déjà goûté l'eau vive, mais peut-être l'as-tu laissée derrière toi. Et si tu t'es éloigné de l'eau vive, si tu as arrêté de t'y abreuver et que tu as recommencé à aller puiser dans ta cruche d'eau vide, insatisfait, le Seigneur t'invite ce matin à revenir à lui, de t'en repentir et de retourner là où tu l'as laissé. Arrête. Tu peux arrêter. Tu peux te repentir. Tu peux repartir à zéro et arrêter de y revenir continuellement. Prochain point. Ce que tu recherches désespérément se trouve dans une seule personne et c'est Jésus-Christ. Rien d'autre va pouvoir combler ce besoin. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, insatisfaits des relations, épuisés et écrasés par la religion, tannés par la prospérité que tu cours après, écœurés de tout ce que tu voudras. Et je te donnerai, je vous donnerai du repos. » Ce matin, le Seigneur t'invite à vivre la même expérience que cette femme et arrêter de tourner en rond et d'abandonner ta cruche vide pour boire son eau à lui. Est-ce que tu as donné, abandonné ta cruche vide? Ou est-ce que tu te promènes encore avec ta cruche vide, à puiser d'un bord puis de l'autre, et t'es insatisfait ce matin? Le Seigneur t'invite à prendre une décision, à répondre à chacune des rencontres. On va être confronté à une décision la semaine passée. Il a pris une décision. Hein? Pilate a pris la décision que devant la vérité, il s'est esquivé. Cette femme, devant la vérité du Messie, à qui il a été révélé également, elle a décidé de boire de l'eau de vie qu'il lui offre. Quelle sera ta décision ce matin? Que ce soit la première fois, parce que tu n'as jamais pris la décision, ou que ce soit que tu as déjà pris la décision et que tu t'en es éloigné et que tu as perdu goût et que la relation avec Jésus s'est refroidie, que l'eau est devenue tiède et dégueu et qu'il t'invite à revenir à ses eaux. J'aimerais vous inviter à vous lever avec moi et à prier alors qu'on va terminer après cela dans un chant de louange. Courbons nos têtes, parlons au Père Céleste. Dites-lui ce qui parle à vos cœurs présentement. Papa Céleste, on reconnaît que nous sommes fragiles et qu'on retourne facilement, Seigneur, à ces eaux usées, ces eaux vides, ces eaux salées, ces eaux qui nous invitent à revenir continuellement, mais qui nous laissent toujours vides. Pardon, Seigneur, de gaspiller notre temps dans tellement de choses comme ça, superficielles, et d'en sortir toujours vides et de dire, « Pourquoi je continue? Pourquoi je suis encore tombé dedans? Je comprends pas. Pourquoi je continue à bâtir sur du sable? » Ce matin, tout peut changer, Seigneur, si j'accepte que ton Fils Jésus, ô Père Céleste, ton Fils Jésus, le Messie, peut étancher parfaitement ma soif et remplir mon âme de l'état de vide qu'il était à être pleinement satisfait. Ô Seigneur, fais-le. Je veux croire ce matin dans ton Fils Jésus. Je veux accepter qui il est, le Fils de Dieu, qui a marché parmi nous humblement. Que ton amour est venu vers nous et non moi vers toi, Seigneur. Je veux accueillir ton amour. Je veux te demander pardon pour mes péchés et te demander de prendre toute la place. Accueille-moi, s'il vous plaît, Seigneur. Tu as dit, venez, je viens ce matin. Cette femme a dit, voyez, je veux voir, Seigneur, ce matin, ce que tu veux pour moi et vivre la satisfaction que tu m'as promis. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.